Section 5. Maintenant, vous qui voulez bien me connaître, écoutez-moi avec attention. Ce ne sera pas de ma faute si je ne vous mets pas à même de bien me juger. C'est ici, à proprement parler, que commence mon duel avec la société. Duel quelquefois interrompu par ma propre volonté et que la nécessité m'a forcé à reprendre en dernier lieu. Je me résolus à devenir le fléau de la société, mais seul je ne pouvais rien. Il me fallait des associés, mais où en prendre? J'avais ignoré longtemps ce que c'était qu'un voleur de profession. Mais enfin, je venais de lire les mémoires de Vidocq. Je m'étais fait une idée de ce qu'était cette classe en continuel état d'hostilité contre la société. C'est là, me dis-je, où il faut aller chercher des bras qui puissent me seconder. C'est là seulement que j'en trouverai. Mais comment faire? J'y réfléchis longtemps. Et à force de réfléchir, je fus convaincu que pour en venir à mes fins et acquérir certaines connaissances qui me manquaient, il fallait absolument que je demeurasse quelque temps au milieu de tous ces gens-là. L'idée était parfaite. J'établissais ainsi une ligne de séparation éternelle entre moi et le monde. Je passais ainsi le Rubicon. Il ne s'agissait pour cela que de commettre un vol de peu d'importance qui ne put pas me faire condamner à une forte peine. J'eus bientôt trouvé une affaire. Voici comment je m'y pris. Je m'adressai à un loueur de voiture de remise et lui demandai un cabriolet pour la journée, pour aller à la campagne. Nous convînmes du prix. Il me donna un cocher pour m'accompagner. Chemin faisant, je dis à ce garçon que j'avais quelqu'un à prendre en passant et je me fis conduire rue Bardubec, dans la maison même de ma tante. Arrivé là, je le priai de porter une lettre que j'avais préparée à une personne qui demeurait au troisième, qui descendrait avec lui. Il ne conçut aucun soupçon et s'acquitta de ma commission. Pendant ce temps-là, je disparus avec le cabriolet et fus le conduire à l'individu que je connaissais et à qui j'avais annoncé la veille que j'aurais un cabriolet à vendre. Je le lui laissai. Il se chargea de trouver un acquéreur. Effectivement, il m'annonça le soir qu'il avait trouvé mon affaire et qu'il avait conclu au prix de 300 francs. C'était un véritable recel. En ouvrant le coffre du cabriolet, on y avait trouvé l'autorisation de police faite au nom du loueur et il était évident que dans ma position, je ne pouvais me trouver innocemment propriétaire d'une semblable marchandise. L'acheteur était donc encore plus coupable que moi, puisqu'il pouvait aller de suite chez le loueur et lui demander des renseignements. Et pourtant, c'est un homme très honorable. Il est riche. J'ai été condamné. On l'a laissé bien tranquille, lui. J'ai les preuves de ce que j'avance. Mais en vérité, pouvait-on condamner un commissaire-priseur comme receleur? Mon acheteur, alléché donc par le bon marché, voulut pourtant essayer de se mettre en règle. Il me pria de lui signer une facture. Je le fis volontiers, tellement j'avais l'intention de me faire arrêter. Ce qui le prouva encore mieux, c'est que, quoique j'eusse appris qu'on avait trouvé l'autorisation de police et que je dusse croire qu'on irait chez le loueur, je me tins fort tranquille et continuai d'aller au café de la Bourse où se traitait toute l'affaire. Une fois la facture signée, on me compta seulement 200 francs contre la parole donnée. Quelques jours après, le constitutionnel signalait tellement bien ce cabriolet qu'un ami de mon acquéreur, qu'il avait vu chez lui, crut devoir le prévenir. Il jugea qu'il ne pouvait pas faire autrement que de prendre l'initiative et se transporta chez mon loueur. Ils arrivèrent ensuite tous ensemble au café de la Bourse, où je passais toute ma journée pour qu'on ne me manquait pas. Effectivement, ils m'y trouvèrent. L'acheteur me fit descendre, puis me plaça en face du loueur et lui demanda s'il me connaissait. Nullement, répondit-il. Ah, oh, vous avez tort, monsieur, dis-je en prenant la parole, car c'est bien moi qui suis allé chez vous il y a quelques jours et qui vous ai volé un cabriolet qui a été vendu à monsieur. Étonnement général. Le loueur voulait absolument me conduire de suite à la préfecture. L'acheteur s'y opposa, mais ce n'était certainement pas par ménagement pour moi, comme vous allez le voir. Il avait appris par celui qui nous avait servi d'entremetteur que j'avais à Paris une tante qui possédait de la fortune, et il ne doutait pas qu'elle ne fît un sacrifice pour me tirer de cette position. Craignant d'être lui-même compromis, ou du moins qu'on ne vînt à lui réclamer des dommages-intérêts, il était bien aise d'arranger cette affaire à l'amiable. Son calcul n'était pas mauvais. Il fit consentir le plaignant à suspendre mon arrestation, à condition que j'irais avec eux chez ma tante. Je refusai néanmoins. Ils y furent seuls et, en attendant, me firent rentrer à mon hôtel où un des leurs fut chargé de me garder jusqu'à leur retour. Ma tante leur demanda jusqu'à 4 heures du soir pour leur donner une réponse. Ils y consentirent et vinrent me trouver. Ils étaient si persuadés que ma tante les solderait qu'ils me laissèrent en liberté. Quant à moi, j'étais bien sûr du contraire. J'avais même été fort étonné qu'elle n'eût pas refusé du premier coup, sans demander un plus long délai. Cependant, loin de me mettre à l'écart, je retournai encore tranquillement au café de la Bourse, où ils vinrent après avoir essuyé un refus. Je fus conduit au poste, de là à la préfecture de police. Et c'est quelques jours après ce premier vol, et non pas avant, qu'eut lieu ce duel avec Constant, neveu de Benjamin Constant, et dont il a été parlé à l'audience sans ma participation. J'excuse pourtant mon défenseur. Je lui ai fait si peu à dire qu'à moins de rester presque à court, il lui a bien fallu se servir de tout ce qui présentait l'apparence d'un moyen de défense. Je fais seulement cette observation pour que l'on remarque que ce duel n'a pu avoir aucune influence sur le vol, puisqu'il est postérieur. Les dates font foi, et d'ailleurs, je n'ai jamais essuyé le moindre poursuite à ce sujet. Qu'un défenseur tronque une circonstance, la présente au public sous un autre point de vue, lorsque c'est dans l'intérêt qu'il défend, le motif est trop noble pour lui en vouloir. Mais ce dont je pourrais me plaindre encore avec juste raison, c'est que monsieur R m'ait fait solliciter avec instance et une apparence de bonne foi de corriger les épreuves de mon procès, comptant, disait-il, pour cela sur ma complaisance. Et qu'a-t-il fait de mes corrections? Il les a placées par renvoi au bas de ses pages. Il les a discutées et livrées aux observations du public. Il s'en est fait un texte de commentaire. Était-ce pour cela que vous sollicitiez ma complaisance, monsieur R? Était-ce pour cela que vous me fassiez déranger de mes autres occupations? Vous avez menti en annonçant mon procès imprimé sur mes épreuves. Vous auriez dû dire malgré mes épreuves, puisque vous n'aviez rien changé à la première rédaction. Et ce dont je pourrais me plaindre encore avec juste raison, c'est que monsieur R est annoncé au public, non pas extrait au singulier, mais extrait au pluriel de mes mémoires, tandis qu'il ne copiait qu'un article fort court qu'il savait bien ne pas en devoir faire partie, puisqu'au moment où il faisait cette prise de possession, mes mémoires n'étaient pas encore commencées. Ce dont je puis me plaindre encore, c'est qu'il m'ait annoncé au public mes poésies et qu'il ait en effet copié en entier quatre chansons qui ont été insérées dans des journaux, mais qui ne font pas pour cela partie du domaine public. C'est donc une violation de ma propriété, car mes écrits m'appartiennent. Je ne suis pas encore mort, même civilement, puisque mon pourvoi suspend tout l'effet du jugement. Vous me faites donc tort à moi ou à ceux qui sont substitués à mes droits, et vous l'avez si bien senti que vous convenez vous-même que mes poésies et mes mémoires feront l'objet d'une propriété particulière. Pourquoi donc en publier des extraits? Autant valait tout prendre pendant que vous y étiez. Vous n'auriez pas été plus malhonnête homme pour cela. Continuez, monsieur R., de placer de la morale dans vos livres, si vous tenez absolument à en avoir quelque part. Bon, je reviens. Je voulais bien aller en prison, puisque je m'étais arrangé pour cela. Mais je voulais aussi, autant que possible, y éviter cette espèce de bienvenue de mystification que l'on paye à peu près dans toutes ces industries. Je connaissais assez les hommes pour cela. J'entrai à la préfecture d'un air qui put faire croire que j'avais l'habitude de cette maison sans m'étonner de rien, en affectant un air sournois et mécontent qui devait me donner de l'importance. Je payai ma bienvenue en argent sans même attendre qu'on me la demandât pour faire voir que je connaissais les usages du pays. Puis, tous les curieux qui vinrent ensuite rôder autour de moi, je les reçus d'un ton sec, comme quelqu'un qui craint d'être reconnu ou de se laisser pénétrer. Je n'avais pourtant rien à dissimuler. Quant à ceux que je remarquais pour être les sommités, les puissants de la salle, je causais avec eux, mais tout en affectant encore de la réserve. Ils me prirent tous pour un malin qui craignait quelque reconnaissance. Il y en eut même quelques-uns qui me firent l'honneur de me dire que ma figure ne leur semblait pas inconnue et qu'ils croyaient bien m'avoir vu là-bas. Là-bas, cela voulait dire au bagne. Je répondis non, de manière à faire penser oui. Dès ce moment, je fus respecté et je pris place à l'état-major du dépôt de la préfecture de police. Mais j'affectais toujours une grande préoccupation pour me dispenser d'entamer de longues conversations. Je craignais de me trahir, car je ne connaissais pas un mot d'argot, et un voleur qui ne connaît pas l'argot, ce n'est rien. Il n'y en a même pas. Je faisais donc semblant de méditer sur ma position. Mais dans le fait, je prêtais l'oreille à ce que l'on disait autour de moi pour orner ma mémoire des richesses de la langue. Avec les quelques mots que j'avais retenus des mémoires de Vidocq, je fus bientôt à même de dire quelques balourdises. C'eût été bien le diable si, avec tant de bonne volonté, je n'avais pas réussi. En 4 jours de temps, je connus non seulement l'argot, mais presque toutes les manières de voler. Bon, ce n'était pas précisément pour cela que j'étais venu. Je voulais connaître également les mœurs de cette population et examiner les caractères sur lesquels on pourrait compter au besoin pour ce que je méditais. Or, ceci n'était pas l'étude de quelques jours. À la force, je continuais mes observations, mais le champ n'était pas assez vaste. Comme je n'étais accusé que d'un mince délit et que je n'avais pas l'air arsouille, on me mit à la cour de la Madeleine. Or, dans cette cour, il n'y avait guère que des contrebandiers, des gens accusés de voies de fait et quelques petits voleurs. Non, ce n'était pas là ce que je cherchais. Il y avait bien aussi quelques bancs rompus, Mais j'en savais déjà assez pour être sûr qu'il ne faut nullement compter sur cela. J'attendais donc avec impatience le moment de ma condamnation pour être au moins transféré à Bicêtre. Comme je n'avais aucun mauvais précédent, je m'attendais à 6 mois au plus. J'avais volé, comme on dit, le code à la main. Oh, je n'ai jamais péché par ignorance. Mon attente fut pourtant trompée, je fus condamné à 1 an de détention. Je devais donc aller à Poissy, mais auparavant il fallait passer par Bicêtre. Mon jugement ne me satisfit pas entièrement. 6 mois de plus me paraissaient quelque chose. Au pis-aller, me dis-je par manière de consolation, ce temps-là ne sera pas perdu. J'étais, comme on voit, toujours resté dans mes principes, dans mon système. J'avais méprisé les hommes jusqu'alors, mais sans pouvoir les détester, ils ne m'avaient pas encore fait de mal. Tant que j'avais eu de l'argent, au contraire, j'avais été bon et serviable. J'en mangeais, il est vrai, beaucoup inutilement, mais je pensais toujours être à l'abri de la nécessité. Sans cela, nul doute que je n'eusse agi différemment et que je me fusse occupé plus sérieusement de l'avenir. Mais lorsque je me vis sans ressources et sans qu'il y eût de ma faute, lorsqu'avec la meilleure envie d'en gagner par mon talent d'une manière honnête et de quelque manière que ce fût, de la manière la plus modeste, lorsque je me vis repoussé et dédaigné partout, lorsque je vis arriver la misère et avec elle la faim, la haine succéda au mépris, haine profonde et rongeuse, dans laquelle je finis par envelopper tout le genre humain. Dès lors, je ne combattis plus pour mon intérêt personnel, mais pour la vengeance. Il est vrai que c'est toujours un intérêt personnel, puisque c'est un plaisir. Mais enfin, je ne songeais plus à mon bien-être, et Serge en donnait déjà une belle preuve en me jetant moi-même en prison. Mais cette vengeance, je la voulais grande comme ma haine. Croyez-vous que c'était le sang de 10, 20 de ses membres qui m'eût suffi? Non, c'était l'édifice social que je voulais attaquer dans ses bases, dans ses riches. Ces riches durs et égoïstes. Suivez-en bien le fil, et vous me direz après si j'ai mal calculé. Si, lorsqu'après avoir hérité quelque temps entre ce que je croyais un devoir et quelques restes de sentiments attachés à notre nature, j'ai pu mieux ourdir ma trame et me procurer un plus beau résultat. Eh bien, maintenant qu'elle est satisfaite de cette vengeance, je n'y songe plus. Je ne veux plus de mal à personne, semblable au duelliste qui se dépouille de sa haine en essuyant le fer qui vient de blesser son ennemi. Observateur comme je l'étais, je ne pouvais manquer d'employer toute ma pénétration et ma sagacité pour lire dans l'âme de la nouvelle société que je m'étais choisie, puisque j'y étais alors si fortement intéressé. J'étais d'autant mieux placé pour faire ces observations que, nouvel Alcibiade, je paraissais né au milieu de ce peuple-là. Il me dégoûtait pourtant de toutes les manières, et c'était un supplice de chaque instant. Mais je m'étais parfaitement bien rejeté à son niveau. Et qui m'eût vu alors à Poissy eût certainement jugé que je n'y étais pas déplacé. Je l'étais pourtant, mais je m'étais forgé une âme de fer. Lorsque j'eus passé quelque temps à Bicêtre, au milieu de tous ces hommes destinés pour Brest, Rochefort ou Toulon, enfin de toutes les illustrations du vol et du meurtre, j'eus presque regret du dessein que j'avais formé, et surtout à la manière dont je m'y étais pris pour le mettre à exécution. Que trouvais-je en effet parmi tous ces misérables? Résignation apathique et sans mérite à leur tort, sort et aux tortures qu'on aurait voulu leur faire subir. Abrutissement complet chez ceux condamnés à des peines valant un arrêt de mort. Rêves insensés chez ceux condamnés à 5, 6, 7 ans, qui calculaient déjà ce qu'ils feraient à leur sortie. Je n'en vis que 4 ou 5 sur la quantité en qui j'aurais eu pleine confiance pour me seconder, mais il ne fallait pas y songer. C'étaient des jugements de 20 ans. J'avais observé combien la captivité et la détention énervaient l'homme et le rendaient incapable d'aucune action énergique. Les hommes qui se font un jeu de venir en prison, quitte ou dans la maudissant par habitude pendant qu'ils y sont, peuvent se présenter devant les yeux un avenir de plusieurs années de captivité sans en être effrayés. Ceux-là, dis-je, ne sont bons à rien et ne laissent pas d'être dangereux. Ils n'ont ni le courage du crime, ni celui de la vertu. Ce n'était pas un de ces hommes-là que je cherchais. Il me fallait à moi une de ces natures premières, un de ces êtres organisés fatalement pour le crime, sans le soupçonner encore eux-mêmes, mais qui, aussitôt que vous leur avez présenté l'idée de l'assassinat pour arriver à cette fortune qu'ils convoitent, s'étonnent de ne pas y avoir songé les premiers. Il me fallait enfin un homme qui n'eût pas encore été abruti par le séjour du bagne. Un homme qui eut foi en moi et en ma capacité, qui se contenta d'être en mes mains un docile instrument, qui ne fut qu'un de mes bras, je vous être la tête et l'autre bras. Car il n'était jamais entré dans mon caractère, ni dans mes plans de répudier une part du danger. J'ai toujours au contraire réclamé la première, la suite le prouvera. J'ai donc dû être étonné lorsque j'ai appris qu'un de ces savants professeurs, qui ne procède en observation en morale que par bosse et protubérance, avait dit de moi: le défaut de courage l'a porté à se contenter de diriger le meurtre et à le faire exécuter par un complice. On se rappelle souvent cette phrase répétée: Lacenaire était la tête, Avril était le bras. Certes, c'est une bien ridicule prétention de ma part de vouloir revendiquer une plus grande part de crime qu'on ne m'en accorde, mais puisque je me présente pour être jugé, non plus par mon crâne, mais par mes sensations et qualités intellectuelles, il faut bien tout expliquer. Vous dites, vous, phrénologue, qu'Avril était le bras. Mais était-il le bras à V en Italie? Était-il le bras dans la rue du Faubourg Saint-Martin, numéro 8, où j'ai lutté pendant un quart d'heure, seul à seul avec ma victime, qui n'a été sauvée que par une de ces circonstances qui ne se rencontrent pas deux fois dans la vie? Vous dites que je me contentais de diriger le meurtre et de le faire exécuter par un complice. Oui, j'ai dirigé le meurtre de Chardon. Mais qui l'a exécuté? Qui l'a frappé le premier? Qui a frappé seul la mère? Et dans la rue Montorgueil, qui a frappé encore Jolivet? Est-ce ainsi que l'on se contente de diriger un meurtre? Parmi les penchants faibles ou nuls chez moi, vous placez la combativité ou courage? Voici ma réponse. Je me suis battu en duel 8 fois dans ma vie et 2 fois dans des combats à mort. Mes témoins existent probablement tous encore aujourd'hui, et qu'il y en ait donc un seul qui se lève et qui dise: j'ai vu trembler cet homme, je l'ai vu sortir de son sang-froid, autrement que pour entrer en fureur. J'ai surpris enfin chez lui un mouvement de crainte. Non, il n'y en aura pas. Non, personne au monde ne le dira. Et si au contraire j'ai une qualité absolue, à l'abri de toute discussion, c'est le courage. Je n'ai jamais connu la peur de ma vie. Voilà ce qui arrive lorsque, dans une scène toute hypothétique, on cherche à faire coïncider les raisonnements avec les faits, et que surtout on ne se donne même pas la peine de les approfondir. Cherchez un autre thème à exploiter pour me faire entrer dans vos rêveries phrénologiques, messieurs. Celui-ci ne vaut rien. Puisque j'en suis à ce chapitre, je le terminerai tout à fait. Voici ce que vous avez écrit. Si au lieu de la mort, vous aviez eu devant vous la peine d'un étroit cachot, sans livre, sans lumière et sans communication aucune, auriez-vous été arrêté dans vos crimes? Réponse. L'idée de cette prison, de cet isolement est affreuse. La mort n'est rien auprès. Je n'ai jamais eu l'habitude de tourner une question. Je l'aborde toujours franchement, parce que je m'abstiens d'y répondre quand elle ne me convient pas. Or, qui le voit du premier coup que ma réponse ne peut s'appliquer à votre demande? C'est qu'il y a eu deux demandes et deux réponses, et vous l'avez oublié. Vous n'avez énoncé qu'une demande et une réponse, et un bâton rompu, semblable à un tailleur, qui travaillant la nuit coudrait une manche verte à un habit bleu. Voici ce que vous m'avez demandé. L'idée de la mort vous paraît-elle plus affreuse que celle d'une réclusion dans un étroit cachot, sans livre, sans lumière et sans aucune communication? À quoi j'ai répondu? L'idée de cet isolement est affreuse et la mort n'est rien auprès. Alors vous avez poursuivi et avez ajouté. Et l'idée de cette dernière peine vous eût-elle arrêté dans vos crimes? Et je vous ai dit non. Lorsque j'ai une fois pris un parti, ce n'est jamais la crainte qui pourrait m'en faire changer. La perspective des plus horribles tortures n'aurait pas cette puissance. Convenez que lorsqu'elles veulent retracer fidèlement une conversation, certaines personnes auraient bien besoin d'appeler à leur secours la sténographie, ou du moins la mnémotechnie, afin de ne pas la tromper, de parler juste. Maintenant, vous devez être pleinement convaincu qu'il n'y a rien dans les questions qui m'ont été adressées qui ait pu servir à confirmer pleinement les rapports existants entre les facultés morales et intellectuelles et l'organisation cérébrale. Ou, s'il existe quelque chose de cela, c'est dans votre propre cerveau seulement. Je n'avais certes pas besoin, à Poissy, d'aller tâter la tête de mes voisins pour m'apercevoir que je n'avais autour de moi, à quelques exceptions près, que bassesse, lâcheté et inertie. Je n'avais besoin pour cela que de faire usage de mon expérience et de ma fatale connaissance du cœur humain, qui m'a rarement trompé. Lorsque je l'ai été, c'est presque volontairement, et lorsque j'ai voulu me donner tout à fait raison contre la société, alors je m'abandonnais à une espèce de confiance aveugle, pour voir seulement s'il n'en serait pas la dupe. Je le prévoyais, j'en étais presque sûr, mais je me disais, essayons encore. Partout illusion et faux espoir, excepté chez mes amis de jeunesse, qui ne m'ont jamais manqué. Il est vrai que j'ai rarement eu recours à eux, et j'ai très bien fait. Où en serais-je aujourd'hui, s'il me fallait abandonner la jouissance de songer à eux et de les séparer dans mon cœur du reste des hommes? Mardi 29 décembre 1835, à 10 h du soir. Notre pourvoi a été rejeté le 26. Je m'en doutais dès le lendemain, mais j'en suis certain depuis une demi-heure. Cependant, personne ne me l'avait annoncé. Mais il y a des figures sur lesquelles je peux lire comme dans un livre, et c'est un éloge. Il est bien difficile de lire sur la figure du méchant, de l'hypocrite. Cependant, lorsqu'il se force pour paraître sensible, il y a je ne sais quoi dans ses larmes qui respire une odeur d'oignon. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai interrogé mon cœur, j'ai voulu savoir si l'idée d'une mort prochaine qui peut arriver demain, après-demain, que sais-je, avait apporté en moi une sensation de crainte. J'ai reconnu que non. Mes convictions sont les mêmes. J'ai abandonné pour un instant le raisonnement pour m'adresser à mes seules sensations et voir si je pouvais encore croire à l'existence d'un Dieu. quatre lignes censurées. Écrivons donc maintenant, écrivons sans relâche, profitons du temps qui nous reste, qui sait même si j'aurai le temps de terminer ce que j'ai entrepris. Toutefois, ce ne sera ni le courage ni la bonne volonté qui me manqueront. Adieu donc, poésie, adieu, mes amours. Pourrais-je te remercier encore de tout le bien que tu m'as fait? Travaillons à la lueur de ma lampe fidèle. Ô mort, tu ne m'arrêteras pas. Tu sais que je ne t'ai jamais redouté. Oh, tu as beau me fixer avec tes yeux ternes, ma plume ne s'arrêtera pas dans ma main. Elle s'en ira que d'un pas plus ferme et plus agile. J'avais besoin de cette position pour me mettre à nu. Je la désirais, et cependant je suis sans fiel et sans haine contre qui que ce soit. Je ne voudrais plus me venger de personne. Deux lignes censurées. Je agis sans crainte et sans espérance et par la seule force de ma volonté. Non, je ne voudrais pas me venger de personne, et pourtant l'indignation m'emportera encore malgré moi, parce que je vais retracer ce que j'ai pensé et non ce que je pense aujourd'hui. Avoue donc, dès ce moment, ma pensée intime, pensée monstrueuse, infernale, s'il en fut jamais, dont je crois que nul autre que moi eût été capable. Je voulais la réserver pour la fin de ce livre et vous la distiller goutte à goutte, mais incertain que je suis d'arriver au but, je me hâte de la dévoiler afin que vous ne perdiez pas tout si le bourreau arrivait demain matin. 10 mai 1829. Il y avait un mois que j'étais sur le pavé de Paris cherchant à sortir du cercle de misère placé autour de moi. Je n'avais rien négligé, j'avais employé tous les moyens honnêtes, personne ne savait alors ce que j'avais pu faire. J'étais coupable, mais moi seul le savais. Et je leur disais à tous, « Oh, je ne demande pas beaucoup, donnez-moi les moyens de gagner ma vie honorablement, je n'ai plus de ressources. Je me suis cru riche, je suis pauvre, je n'ai plus rien. Empêchez-moi de mourir de faim, je vous serai reconnaissant. » Je me suis abaissé à la prière, ô honte. Et partout, dédain, promesses trompeuses qu'on oublie en fermant sa porte et en revenant se mettre à table, en savourant le champagne et en oubliant celui qui meurt peut-être de misère. Qui pourrait décrire ce qu'ont été pour moi une âme comme la mienne de semblables humiliations? Moi, fait pour m'asseoir au premier rang au banquet de la vie, on me refuse du pain que je demande à gagner. Du pain, je n'en veux plus de vous maintenant. Ce n'est plus pour ma vie que je combats, c'est pour la vengeance. Des pensées prodigieuses me montèrent au cerveau. Je vis d'un côté une société de riches s'endormant dans leur jouissance et calfeutrant leur âme contre la pitié, et d'autre part une société de misérables qui demandait le nécessaire à des gens qui regorgeaient de superflu. Je m'identifiais avec cette dernière société. Je pris fait et cause pour elle. Je devins elle, deux lignes censurées, et la rendre plus sensible un jour à venir aux souffrances du malheureux dans son propre intérêt. Je me sacrifiais. Et qui pouvait mieux que moi jouer ce rôle, moi qui avais la conscience de mon talent et de la force de caractère, talent toujours ignoré parce que je n'en ai jamais fait parade. Je me suis dit, c'est dans ses fondements, c'est-à-dire dans sa morale, qu'il faut frapper l'édifice social. Or, qui peut mieux y réussir qu'un être de ma trempe? Trois lignes censurées. Et tout cela était en moi, si je le voulais. Et moi, aussi sensible qu'aucun homme ait pu l'être, aussi stoïque qu'on ne le sera jamais. Voici quel fut mon raisonnement. L'homme, indécis sur une action qu'il médite, attend souvent un exemple qui l'encourage. Quelque envie qu'il ait de la faire, il ne veut pas être le premier, il attend qu'on lui ouvre le chemin. Aussi, voyez, examinez dans la société, un acte de bienfaisance succède à un acte de bienfaisance, Et un duel à un duel, un suicide à un suicide, un crime à un crime. L'homme est imitateur. Confrontez attentivement les registres de la police avec ceux de la cour d'assises, et vous verrez que l'assassinat n'est jamais plus fréquent que lorsqu'on vient de condamner un homme pour assassinat. 6 mois passés sans meurtre, il faut une âme forte pour en commettre un. Il montre l'exemple, on le suit, et combien qui m'attendaient que cela pour se décider. En sortant de la cour d'assises, on est toujours plus disposé à commettre un crime qu'en y entrant. Il y a ce je ne sais quoi qui fait qu'on y trouve plus autant de répugnance. Et si l'accusé est ferme, quel encouragement! Je serai comme lui, me dit-on, se dit-on. Ne suis-je pas homme comme lui? On s'habitue à cette idée, on ne la chasse plus. Et si le criminel vient à montrer que c'est la société qui a tort avec lui, chacun se dit, ben, elle a aussi tort avec moi. Pourquoi la ménagerais-je plus que lui? Pourquoi craindrais-je plus que lui? Tout cela est dans l'homme. Osez me dire que non, je vous dirai que vous ne le connaissez pas. Et que sera-ce encore, ajoutai-je, lorsque ce criminel sera moi? Moi, descendu jusqu'au crime des hauts rangs de la société, moi, 11 lignes censurées. Non, je ne serai ni l'un ni l'autre. Quel coup porté aux croyances pour son retentissement. Ah, vous aurez beau me réfuter, je vous dirai comme Beaumarchais, calomnier, calomnier, il en reste toujours quelque chose. Il en restera toujours quelque chose de moi. Voulez-vous que je vous dise une chose, moi qui connais à fond le cœur de l'homme, à vous qui pensez le contraire? Jugez à huis clos, exécutez à huis clos, déchirez la gazette des tribunaux, croyez-moi. Si vous suivez mon conseil, je vous serai fait plus de bien que de mal. Voici d'où je suis parti. Qui viendra me dire aujourd'hui que j'ai trop préjugé de mes forces ou de la perversité de l'espèce humaine? Qui viendra me dire que je n'ai pas réussi aussi bien que je pouvais l'espérer? Un homme seul contre tous, mais un homme fort et puissant de son génie, que la société a rejeté dès son berceau, qui a senti sa force et l'a employée au mal. Un homme qui a tout étudié, tout approfondi. Un homme qui donnerait 20 fois sa vie pour reconnaître un bienfait. Un homme qui sent tout sans pouvoir l'exprimer, mais à l'âme duquel rien de beau et de noble n'est étranger. Un homme, enfin, qui, tout en méprisant ses semblables, a eu plus de violence à se faire pour arriver au mal que beaucoup d'autres pour arriver à la vertu. Et maintenant que je suis parvenu au but de ma vengeance, d'une vengeance à laquelle j'ai consacré 5 années de ma vie, qui vous dit que je ne la regrette pas? Qui vous dit qu'en faveur de ces âmes sensibles que j'ai rencontrées sous les verrous, je ne crains pas moi-même d'être exaucé? Oh oui, au lieu d'insurger le pauvre comme le riche, puisse mon dernier écrit engager le riche à porter secours au malheureux. Vous vous êtes dit, homme de la justice, lorsque j'ai déroulé devant vous le hideux spectacle du passage du cheval rouge, vous vous êtes dit, la société sera vengée. Et moi, je me suis dit, la société sera frappée au cœur. Vous avez cru que la mort de 5 ou 6 individus égorgés au hasard était le but de ma vengeance. Oh, la mort, elle suffisait pour me venger en Italie, alors qu'atteint d'une légère blessure, je n'y regardais pas de si près. Je ne raisonnais pas, je n'étais pas dans mes principes ce jour-là. Vous ne me ferez plus ce reproche désormais, vous me verrez marcher de conséquence en conséquence au terme que je me suis proposé. Vous m'avez déclaré un grand scélérat parce que j'ai tué 17 lignes censurées. Je deviens spiritualiste pour un moment. Je crois à une autre vie fermement, mais j'y crois non seulement pour l'homme mon semblable, mais encore pour l'animal qui a aussi son intelligence. Et chez certains animaux, l'intelligence est supérieure à celle de certains hommes. Si je vous dis, moi, j'ai foi à l'âme immortelle de la brute, vous abstiendrez-vous de la tuer sous mes yeux? Et si je me plains, vous me direz froidement, elle n'a pas d'âme. Ah oui, j'entends, vous l'avez décrété ainsi. Il y a chose jugée de votre part, c'est un fait accompli. S'incline censuré. Vous matérialisez l'animal, et moi je vous matérialise. Mais je veux convenir encore avec vous que l'âme des animaux n'est pas immortelle. Êtes-vous moins juste ou moins barbare? Qui vous a donné le droit sur la seule propriété que ce que vous ne puissiez méconnaître chez eux, sur leur vie animale et physique que rien ne peut leur rendre et pour laquelle vous ne pouvez leur offrir aucune compensation? Vous voyez que dans ce cas, je vous aurais encore pris pour exemple. 12 lignes censurées. Mais ce n'est pas tout pour vous que de tuer, pour vous nourrir, un être inoffensif la plupart du temps. Il faut encore que vous le fassiez souffrir, souffrir pour votre nourriture, souffrir pour votre divertissement. Quel est ce bel et noble animal qui traverse la plaine, haletant de fatigue, les yeux égarés par la frayeur, et poursuivi par 20 autres animaux, suivi de quelques hommes qui les ont dressés à cet horrible manège. C'est un pauvre cerf qu'une meute va forcer. Elle va le faire passer devant le chasseur, il pourrait le tuer d'un coup, mais s'il voulait terminer son agonie, mais non, ce serait abréger ses plaisirs. C'en est fait, il est aux abois, l'approche de la mort lui arrache des larmes. Il demande grâce. Point de pitié, on va l'égorger. Mais avec la même précision qu'un maître d'hôtel met à découper une volaille rôtie, on le dépèce vivant. Homme, vous avez inventé des manières de tuer les animaux proportionnées à la délicatesse de votre palais. Oui, moi qui ai tué, voulez-vous que je vous dise une chose? Je n'ai jamais pu voir souffrir de sang-froid un être animé. Quel qu'il fût, la mort ne me semble rien. 2 lignes censurées. Mais j'ai horreur de la souffrance, plus encore pour les autres que pour moi, parce que je me suppose plus de force qu'eux pour la supporter. La vue de la souffrance me torture lorsqu'elle est le résultat d'un accident de nature. Elle m'indigne quand elle est imposée par une créature à une autre, quelle qu'elle soit. Et je m'indigne plus encore en voyant un agneau égorgé par un boucher qu'un homme dévoré par un tigre. Honte soit au premier philosophe qui déclara du haut de sa science que l'animal était un mécanisme, pour donner ainsi le droit à l'homme de le torturer à son plaisir, comme un enfant s'amuse à faire crier les ressorts d'une pendule. Si j'avais été maître absolu dans un état, j'aurais condamné non pas à la mort, mais aux tortures les plus horribles, celui qui aurait fait souffrir inutilement un homme ou un animal. Et je vous le dis, s'il avait fallu voir souffrir un homme avant de l'égorger, je ne l'eusse jamais pu. Le poignard levé sur ma victime, et si elle m'eût prié, si elle m'eût dit grâce pour ma vie, mon bras serait retombé faible. 9 lignes censurées. Fera trembler ses riches au moment où ils jettent aux chiens le pain qu'ils refusent à leurs semblables. Mais je vous le répète, j'ai tellement horreur de la souffrance que moi, le génie de la vengeance, je pardonne à mon ennemi quand il souffre. Je le soulagerai même, quitte à le poursuivre encore lorsque je le verrai heureux. Mais vous autres, la souffrance, vous l'avez placée dans les choses de convention. Vous ne l'appréciez que dans les êtres à votre image. Cela est si vrai que tandis que vous vous entretuez pour une misérable liberté politique, vous avez à Saint-Pierre des hommes qui sont immeubles par destination. Ils souffrent, que vous importe, ils sont noirs et vous êtes blancs. Non, vous ne comprenez pas que les souffrances qui peuvent nous atteindre un jour. Et certes, vous avez révélé le secret de l'homme. Monsieur Rock, lorsque vous avez dit l'assassinat fait horreur ordinairement, il nous inspire d'autant plus d'effroi que les circonstances où se trouvent les victimes offrent plus d'analogies avec des circonstances qui nous environnent ou que nous prévoyons pouvoir naître à chaque instant autour de nous. Oui, voilà bien l'homme. Faudrait-il donc conclure de ce que j'ai dit que je viens justifier le meurtre? Nullement. Je viens seulement démontrer la cruauté et l'inconséquence des hommes, qui proscrivent une chose sous un point de vue et l'adoptent sous un autre. Je viens, au contraire, proscrire de dessus de la terre le meurtre et la souffrance provenant du fait de la créature. Le meurtre. Loin que le matérialisme justifie, il en fait la justice la plus révoltante, hors le cas de la plus absolue nécessité, hors le cas de la conservation, premier principe, première condition de la nature. C'est cette idée de conservation qui justifie le tigre qui vous tue pour se nourrir de votre chair, et qui vous justifie à votre tour lorsque vous le détruisez pour l'empêcher de vous nuire. Hors ce cas, le meurtre ne peut se justifier, sans cela la peine de mort serait la plus belle excuse de l'assassin. Mais vous en voulez au meurtrier, et chaque jour vous foulez aux pieds, vous broyez sous ses dents, sans remords, le cadavre de vos victimes. Chaque jour vous marchez sur des douleurs saignantes, sans daigner vous retourner. Non, je ne viens pas prêcher le meurtre, mais je viens protester contre l'ordre atroce que vous avez établi pour vous dans la nature, parce que je savais que je devais la signer et la sceller avec le mien. Je viens prêcher aux riches la religion de la crainte, puisque la religion de l'amour n'a aucun pouvoir sur son cœur. Et vous avez cru que je tuais uniquement pour me procurer de l'argent. Ah, si vous aviez pu lire dans mon cœur, vous y auriez lu la pensée intime du suicide, mais d'un suicide éclatant, profitant à la partie de la société que je représentais en 1829, alors qu'on me refusait place au banquet. Et vous avez cru, lorsque vous m'avez vu me dénoncer moi-même, pour perdre deux de mes complices, que la vengeance seule faisait s'agir. Oui, la vengeance, mais toujours la mienne. J'ai prétendu enlever encore un avantage à la société, en prouvant aux scélérats que l'union, le respect, au serment font leur force et leur donnent un exemple de ce que peut l'indiscrétion. Ma vengeance particulière contre eux a été subordonnée à cette prévision-là, et je l'ai encore fait concorder avec mon intérêt personnel du moment. J'étais bien aise qu'ils n'eussent fourni ce prétexte. Il est certain que sans cela, je me serais néanmoins déclaré moi-même, sans trahir mes complices. Dans toutes les révélations que j'ai faites, et on va les retrouver toutes à leur place, je n'ai considéré que ce but-là. Et la meilleure preuve que j'en puisse donner, c'est que, comme on s'en doute, il en est d'autres que j'emporterai avec moi. Ce qui certifiera que, quand on tient son serment à mon égard, je sais le tenir aussi. Retaillez vos plumes maintenant, moraliste, observateur, qui avez voulu me juger sans me connaître, sans ma participation. Pensiez-vous donc que je me dévoilerais ainsi avant le temps, que je vous donnerais mon dernier mot? Discutez à cette heure pour expliquer si le matérialisme chez moi est fait ou cause du crime. Rapportez mes conversations, rapprochez-les et créez-vous un homme qui se rapporte à vos systèmes, mais ce ne sera jamais moi. Louez ma franchise, je vous le permets. J'ai bien ri de vos dissertations. Vous avez raisonné sur la dent d'or avant de vous assurer si réellement il y avait une dent d'or. Et vous, phrénologue, évertuez-vous aussi un peu. Hâtez-vous, cependant. Revenez tâter ma tête, peut-être y retrouverez-vous les organes de la combativité. Eh bien, malgré cette haine profonde que je nourrissais contre une partie de la société, Toutes les fois que j'ai eu l'occasion d'être en rapport avec des hommes sensibles, justes et bienfaisants, ma vengeance est restée suspendue un instant où j'en ai eu regret lorsque tout a été consommé. Aimer ou haïr, voilà toute mon existence. Pourquoi n'ai-je pas pu aimer tout le monde? Il ne faudrait pas croire, cependant, que cette fureur de vengeance m'eût porté à assassiner sans espoir de réussite, ou avec la certitude même d'être pris. Non, je suis homme. L'idée de ma conservation n'était pas affaiblie à ce point, mais je bravais le danger en me disant: au bout, la vengeance, jouissons-en en attendant, aux dépens des autres, tandis que le hasard me favorisera. Mais je ne voulais pas user ma vie en prison. C'est pour cela que j'avais cherché à me mettre à même de commettre un meurtre avant tout, pour pouvoir me livrer, au cas où je serais arrêté, dans quelque autre entreprise. Et voyez si j'y ai manqué. Je sentais que je ne pouvais pas réussir seul à un meurtre. Je n'avais pas assez de force physique et je le jugeais si bien que lorsque plus tard j'ai entrepris seul d'assassiner Javotte dans la rue Saint-Martin, c'est la faiblesse seule de mon bras qui l'a préservé. Certes, alors, il m'a fallu de l'énergie pour lutter pendant un quart d'heure avec la victime dont le rôle me déchirait le cœur. C'est un des moments de ma vie où j'ai combattu le plus contre moi-même. Et cependant, j'ai conservé tout mon sang-froid. Quelque temps après être arrivé à Poissy, je fus fâché de la sottise que j'avais faite de m'y faire enfermer si gratuitement et pour avancer si peu vers mon but. J'avais observé de prime abord tous ceux qui devaient être libérés à peu près dans le même temps que moi. Il n'y avait rien à faire avec tous ces êtres-là. Ceux qui avaient un peu d'énergie sortaient à des époques trop éloignées pour espérer de les revoir de sitôt. Et par conséquent, pour que je risquasse de leur faire des ouvertures qui auraient pu me compromettre. Voyant mon plan manquer sous ce rapport, je le vis à part pour quelque temps et n'y songeais plus. Je m'adonnais tout à fait à la poésie. Elle me radoucit le cœur. Je n'ai absolument rien gardé de mes compositions de ce temps-là. Peut-être avait-elle quelque mérite. Je dois en convenir, une fois que, laissant reposer mes idées de vengeance, j'oubliais tout à fait le monde pour me livrer à d'autres réflexions, pour reprendre en moi-même, sans le secours des livres, mes anciennes études, pour me livrer de nouveau à tout ce qui avait fait le charme de ma vie, ce qui était une véritable monomanie chez moi, la poésie. Et je redevins heureux, plus heureux peut-être que je ne l'avais jamais été dans ce monde, en donnant carrière à mes passions, en satisfaisant toutes mes fantaisies. Soit que l'on s'indigne ou que l'on s'attendrisse, il y a un je ne sais quoi dans la poésie, et surtout dans la poésie de sentiment, qui vous élève au-dessus de l'humanité et qui prête des charmes même à la captivité, qui met à l'abri des revers de l'existence l'homme qui sait s'isoler et se suffire à soi-même. Je m'occupais donc exclusivement de poésie et négligeais toute autre espèce de travail. En effet, je ne savais rien faire. Il m'eût fallu de la bonne volonté pour réussir à quelque chose, et ce n'est pas là que je la mettais. Plus tard, j'ai éprouvé à Poissy que je savais travailler de mes mains quand la nécessité m'y forçait. La nécessité, mais c'est la seule loi que je respecte. Elle est au-dessus de moi.